Vous écoutez Pardon My Surf, le podcast pour les passionnés de surf et ceux qui veulent le devenir.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien de Pardon My Surf et aujourd'hui on lance un nouveau format, l'interview compète, dans lequel on va débriefer l'actu compète d'un surfeur ou d'une surfeuse, donc son actu passé, ses objectifs futurs en termes de compétition. On va aussi essayer de vivre avec lui les compétitions à travers son regard, voir ses joies, ses peines, ce qu'il a pu en tirer, ce qui peut l'aider pour la suite. On a la chance de commencer avec l'un des deux surfeurs qui a eu la plus grosse actu compète de ce début d'année. Champion d'Europe WSL l'an dernier, 14e et meilleur français des Challenger Series, ce qui lui a permis de participer au championnat du monde ISA en ce début d'année et d'enchaîner avec une wildcard sur la troisième épreuve du CT, donc la première division WSL, au Portugal. Je suis extrêmement heureux de pouvoir échanger avec Marco Mignot.
Here he goes, Mignot.
What a comeback right there from Marco at the end.
One more time.
Ooh.
Big stab there for Mignot.
Bonjour Marco, comment ça va?
Bonjour, salut, ça va?
Ça va, super.
Je suis content d'être ici.
Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pour commencer, et pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui ne te connaîtraient pas bien, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous en dire plus sur toi, sur ton parcours, que je sais atypique. Donc, détaille-nous un peu tout ça.
Bien sûr, bien sûr. Bah, moi, je m'appelle Marco Mignot, j'ai 22 ans. J'habite au Mexique, mais je suis français. Alors, franco-mexicain. Et voilà, j'ai commencé le surf à 7 ans. Et depuis, j'ai travaillé très dur, mais je me suis beaucoup amusé. Et maintenant, je suis ici, je fais ce que j'aime.
Donc, je te parlais de, on parlait de parcours atypique. Tu as grandi, tu as eu une vie un peu de voyageur aventurier, je pense. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus de cette vie que je pense bah, beaucoup de gens n'ont pas eu?
Non, ouais, bien sûr, c'est magique pour moi, parce que mes parents, mon père, il a acheté un voilier quand il était jeune, il avait comme 23 ans, 24 ans, et après, il a fait le Caraïbe et tout. Elle a rencontré ma mère. Et voilà, après, ça a été une aventure. Nous, on est né dans le bateau. Mon frère Nommé, qui était professionnel surfeur aussi, il est né au Panama. Moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie. Voilà, mon petit frère Manois, il est né au Mexique. Voilà, c'était tout le temps l'aventure avec mes parents. Et je suis vraiment, vraiment... c'est une vie incroyable parce qu'ils nous ont donné l'aventure et la liberté de faire ce que nous, on veut. Alors, c'est cool.
Et du coup, t'as commencé le surf quand vous étiez sur ce bateau familial? Ou le surf est venu un peu plus tard?
Non, nous, on a commencé le surf au Mexique.
D'accord.
Quand mes parents, ils ont décidé d'arrêter de voyager en voilier, là, ils ont dit, bon, c'est bon, ça fait trop longtemps là. Faut faire une vie sur la terre. Et voilà, on a bougé au Mexique. J'avais 5 ans.
OK.
Et voilà, on est arrivé là-bas et j'avais mon cousin Diego, qui était aussi professionnel surfeur.
D'accord.
Lui, il surfait et le village était un village de pêcheurs et surfeurs. Alors, tu avais deux choix. Ou tu surfais ou tu pêchais. Et c'était naturel en fait. Tout le monde surfait, tout le monde pêchait. Et on a commencé le surf là-bas au Mexique.
Ok. Et du coup, tu as commencé les compétitions jeunes directement ou c'est quelque chose qui est venu plus tard?
Bah, en fait, au Mexique, à Sayulita, où j'habitais, ils organisaient une compète par année.
D'accord.
C'est là-bas où j'ai fait ma première compète. J'ai fait ma première compète. J'ai gagné. Et franchement, c'était incroyable, tu vois. C'est comme... Depuis, ça a été... OK, je veux faire ça pour le reste de ma vie. J'adore faire la compète. J'adore... Voilà, première compète au Mexique.
C'était une de mes interrogations justement, et je me disais, est-ce que tu fais du surf de compétition pour vivre du surf, ou t'as vraiment la compète, c'est quelque chose de voilà d'hyper important, et t'as l'esprit de compétition et t'as vraiment envie de te donner à fond là-dedans. Avec ce que tu viens de répondre, j'ai un petit élément de réponse.
Bah, La compète, c'est quelque chose que j'adore. Bien sûr, il y a ces moments durs, tu vois. Tu vas pas tout le temps gagner. Il y aura des moments très durs, mais bon, j'adore ça. Gagner, perdre, le procès pour y arriver à mes rêves, c'est ce que j'adore. C'est la compète. Me réveiller le matin en sachant que, voilà, tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer, mais tu vas faire tout pour y arriver, tout pour gagner. Et c'est un challenge de dire, ok, ce soir, je vais rester chez moi, je vais me reposer parce que demain, j'ai une compète, je vais pas sortir faire la fête, j'ai envie de m'entraîner. Tout l'aspect
D'accord, ouais.
de préparation pour la compète, j'adore.
D'accord, ok. Et ben du coup, en parlant de compète, on va enchaîner sur un peu l'actualité. Je vais un peu détailler ce que j'ai dit en préambule. Du coup, donc par rapport à l'année dernière, grosse année pour toi l'année dernière, mine de rien. Bon, champion d'Europe WSL, rien que ça. Donc c'est expliqué en quelques mots. Donc tu gagnes le classement général des Qualifying Series Europe, qui est la troisième de division WSL et qui permet donc pour les sept premiers d'accéder à la deuxième division qui est les Challenger Series. Donc tu gagnes le dernier QS de la saison à Caparica et du coup tu finis champion d'Europe. Là-dessus, tu enchaînes sur la saison des Challenger Series et tu finis 14e, meilleur français et tu finis sur une dernière compète. J'en aurais cassé ma télé. tu es à deux séries du CT, quoi. Tu passes un cheveu du CT sur une série contre un des frères Poupeau.
Samuel
Ouais,
Boucault.
Samuel Poupeau, c'est le frère. Folie. Vraiment, série de folie. Et du coup, tu passes à deux doigts. Tu finis quand même meilleur français. Et tout ça te permet d'accéder un peu à cette première partie de saison. Du coup, tu vas être sélectionné avec l'équipe de France pour les championnats du monde ISA, donc qui est le championnat du monde des fédérations internationales, qui est différent de la WSL, qui est une ligue privée. Et après, en plus du fait de ces Challenger Series, tu vas avoir une wild card sur une épreuve du CT au Portugal directement derrière.
Ouais.
On va pouvoir discuter de tout ça. Donc, entre la fin des Challenger Series qui était en octobre 23 et le début des championnats du monde d'ISA, il y a 4 mois qui se sont écoulés. Toi, pendant ces 4 mois, voilà, qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu sais pour l'équipe de France, sachant que c'est des championnats du monde ISA importants parce qu'il y a des qualifications pour les Jeux Olympiques. Et après, toi, comment tu vas te préparer? Voilà, comment tu vas axer ta préparation pour ces événements.
Bah, tu sais, à la base, en fait, même quand j'ai fini champion d'Europe, meilleur européen, et après avoir été le meilleur ranké dans les challengers comme français, j'avais pas ma place à essayer au championnat du monde.
D'accord.
Ils ont dit faut qu'on fasse une présélection, une sélection à Puerto Rico. Début novembre. Alors c'était pas.
D'accord, ok.
En fait, j'ai fini les challengers et j'ai dit bon, c'est pas fini en fait. Même si j'étais le meilleur en Europe, c'était fallait que j'ai
Sinon,
ma
t'es pas
sélection.
terminé.
Voilà ma place. On a été à Puerto
Ok.
Rico, moi, Johan Duru, Mihimana, et on s'est tous battus pour la place. Et voilà, j'ai eu ma place. Et voilà, c'est après ma préparation, c'est je laisse aller un petit peu un mois, tu vois, après les compètes, après une très longue année, je fais la fête un petit peu, je passe du temps avec ma famille, je laisse aller, tu vois, je profite un petit peu. Et après, ok, je mets tout à zéro et je dis, ok, bon, premier trip à Hawaï, je commence l'année à Hawaï, je fais un mois et demi, 2 mois là-bas, surfer les vagues. De conséquences, tu vois, entre Pipe et Sunset, tu vois, c'est des compètes que si tu te qualifies dans le CT, bah, tu vas devoir les surfer. Et je veux être le plus près possible. Alors, pour moi, quand je suis en dehors des compètes, c'est ma préparation. Si, quand le jour que je me qualifie dans le CT, je vais être prêt, tu vois.
Du coup, t'as pas fait de, j'allais dire, de préparation spécifique pour la vague de Porto Rico.
Oui. Non, j'ai fait un petit training camp avec Julien, qui est mon coach physique. C'était à distance, mais il m'a aidé. Lui m'a mis tout dans un programme et j'ai fait environ un mois et demi de physique. Et voilà, des entraînements de surf et tout. Voilà, préparation pour Puerto Rico. Et voilà, c'est une préparation. C'est tous les jours. Tous les jours, c'est une préparation pour moi. Il n'y a pas des jours que je dis, ah, c'est off. Non. C'est pour moi, là, maintenant, le niveau est tellement haut. Et où est-ce que je veux, moi, arriver? C'est vraiment loin. Alors, faut que je travaille tous les jours. J'ai pas des journées, je dis, ah, ok, tu sais quoi, je vais me reposer aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des jours où tu te reposes. Ça fait partie de l'entraînement, de la récupération. Mais si ce jour-là, je m'arrête, c'est, je fais un sauna, je fais un yoga, je fais quelque chose de positif, tu vois. Voilà.
Ok, cool. Et du coup, par rapport à tes planches, est-ce que tu as retravaillé tes planches et ton quiver pour ce début d'année, ou tu es parti sur des planches avec lesquelles tu es déjà à l'aise et tu continues là-dessus?
Ouais, je continue, même côte, JS Industries, c'est une marque de planche, une des meilleures marques de planche là-bas en Australie et mondialement reconnue. Et j'ai pas trop changé, non. J'utilise un peu les mêmes côtes. J'ai pas vraiment changé de poids. Je suis dans le même poids, alors j'essaie pas de changer trop. Si ça marche bien, je garde la même planche et je la resurf.
T'es resté dans la continuité de l'année passée, quoi.
Voilà.
Ok.
Voilà.
Du coup, écoute, on va enchaîner avec l'équipe de France, du coup, et vraiment ces championnats du monde. Donc, c'était la première fois pour toi en équipe de France senior, vu que t'as fait tes classes chez les juniors et bien comme il faut, parce que t'avais déjà fait des championnats du monde d'ISA, si je ne m'abuse, pour lesquels tu as fini troisième.
Ouais.
Donc là, c'était la première fois. Donc, comment s'est passée ton intégration dans l'équipe de France? Parce que c'était déjà il y avait déjà des habitués. Il y a un staff qui est conséquent. Tu as peut-être plus l'habitude d'être en solo ou d'être peut-être en effectif plus réduit. Comment ça se passe cette intégration au sein de l'équipe?
Après, je connais beaucoup l'équipe, le staff. Je connaissais même avant d'aller au championnat du monde. Mais cette année, par exemple, on avait Jérémy Flores, tu vois, qui faisait partie de l'équipe. Et franchement, il nous a vraiment mis en confiance, mais incroyable. C'est vraiment avoir Jérémy dans nos côtés. Tu sens sa passion, son énergie. Il veut vraiment gagner tout le temps. C'est quelque chose que c'est incroyable d'avoir dans tes côtés. Franchement, toute l'équipe, tout le staff cette année, c'était incroyable. On a tous connecté. Franchement, je sens que l'équipe de France a beaucoup progressé sur ça. Le staff s'améliore tout le temps. On a des coachs incroyables. On a des Alain Rioux, ancien professionnel surfeur. On a Fred Robin, ancien professionnel aussi. On a plein de coachs qui sont vraiment bien. Alors, franchement, incroyable.
Tu m'as un peu spoilé sur Jérémy Flores. Je voulais revenir sur lui parce que j'ai pas mal rigolé devant ma télé dès qu'il y avait un plan sur lui. On l'entendait crier au bord de la plage. Je me demandais si toi, quand tu étais au pic, tu l'entendais crier au bord ou...
Après, t'entends toute l'équipe, c'est dur de dire, ah, je focus sur une personne.
Ils avaient de la voix, en tout cas, ils avaient de la voix. L'équipe de France, ils étaient là, quoi.
on est reconnus comme les gens qui ont une grosse voix.
Ça marche.
Nous entendent bien.
C'est cool. Et toi, en termes de par rapport aux autres aux autres surfeurs, tu avais déjà côtoyé les autres surfeurs un peu avant, parce qu'il y avait quand même un peu entre guillemets deux générations. J'allais dire, il y a avec un peu peut-être Tessa au milieu, mais il y avait un peu les trentenaires et puis ceux qui ont la vingtaine. Du coup, tu les avais déjà côtoyés ou pour certains ou tous?
Tous. Après, par exemple, je sens que par exemple Joanne Defay, je la connaissais bien, tu vois, on se disait bonjour et tout, et on savait qui on était, on se parlait de temps en temps, mais là je sens qu'on a beaucoup, on a connecté beaucoup mieux par plein de faits incroyables. Ça, elle nous a tous montré que voilà, à travers la détermination et le travail, les choses payent, tu vois. Et voilà, c'est un
Ouais,
exemple. J'en
c'est
ai
sûr.
fait, c'est un exemple. Et elle est super humilde. Tu ne te rends même pas compte, tu vois, que c'est une des meilleures surfeurs du monde.
Voilà, on s'en rend bien
Tu vois,
compte là.
elle. Voilà. La façon qu'elle est, c'est cool parce que elle est humble. Elle est humble, elle est cool. Elle change pas pour le monde, tu vois. Elle reste elle et c'est cool. Mais pareil, Jean Duru, tu vois. Jean Duru, tu vois, on se parlait et tout, mais je sens que j'ai pu le. On a pu se connecter plus, tu vois. Se comprendre plus entre nous. Et franchement, pareil, Jean Duru, c'est une machine de compète. Il est vraiment cool aussi, une bonne personne. Kaoli, pareil. Lui, je le connais depuis tout petit. On fait des conneries ensemble et aussi on s'entraîne ensemble. Alors, on a une
Oh,
bonne
c'est cool ça.
amitié.
Bah, ça doit être sympa d'avoir été sur des compètes petits avec quelqu'un et de pouvoir le suivre à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, c'est pas gagné, quoi. La probabilité que ça arrive, c'est cool, quoi.
Kaoli, c'est une personne qu'on s'est tous tout le temps poussé. Par exemple, quand j'étais jeune, oui, quand on était plus jeune, dans les pro juniors, l'année que je voulais être champion d'Europe, à la dernière compète, c'est drôle d'ailleurs, à la dernière compète, ils m'enlèvent mon titre. Le dernier jour, bah, ça m'a un peu. Ce qui est cool, l'année d'après, j'avais tellement envie de gagner, j'ai pu gagner. Alors c'est cool. Mais. Le truc, c'est ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, pareil, moi, dernière compète, lui, il était premier, et j'ai pu le battre le dernier jour. Et lui, tout ce qui est passé, tout ce qui ne fallait pas passer pour lui, bah, ça s'est passé. Tout ce qu'il fallait que tout se passe bien pour moi, ça s'est passé, tu vois. Alors, des fois, c'est la vie, comme ça. Lui, il a gagné quand il était plus jeune, et maintenant, c'était à moi de le gagner. Alors, on est à
Ouais, vous
1-1.
tirez la bourre. C'est bien.
Positif, tu vois. C'est pas. C'est, on se pousse entre nous, tu vois. C'est cool, c'est une bonne
Top.
compétition.
Et du coup, pour revenir au niveau du fonctionnement de l'équipe de France et de ton fonctionnement, du coup, comment t'as géré le fait que d'habitude, t'es un peu plus seul, et là, le fonctionnement en équipe. C'est-à-dire, ils imposent un fonctionnement particulier en équipe de France. Toi, tu rentres dans ce moule où il y a des spécificités. Comment un peu comment ça s'organise en fait au sein de l'équipe? Pas forcément dans le détail, s'il y a des secrets de Polichinelle, mais voilà, comment toi tu gères ta propre routine au sein d'une équipe en fait.
Bah, en fait, bien sûr, tu as l'esprit équipe qui est très important parce que tu n'es pas tout seul pendant les championnats du monde, tu as une équipe. Mais oui, un peu, tout le monde a sa. Tu vois, le matin, tout le monde a sa routine, fait un petit peu ce qu'il veut, mais bon, on part tous surfer à peu près à la même heure. Et voilà, on a notre. Franchement, c'est juste, faut être plus esprit équipe, tu vois, qu'on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude. Moi, j'aime bien être un peu tout seul, tu vois, j'ai ma routine. Mais c'est important que quand t'es en équipe de France, de connecter avec tout le monde et pas penser à soi, mais penser à tous, tu vois. C'est très important. Mais oui, ils nous ont tous laissé avoir beaucoup de liberté, avoir notre petite routine et ils étaient pas là, non, tu peux pas faire ça parce que non, le staff était très flexible et voilà, c'était bien, c'est un bon ballon, une bonne balance.
Et du coup, en termes vraiment d'équipe, et là, on va en venir sur le surf, est-ce que, suivant les séries, vous établissiez des stratégies d'équipe où c'était que le meilleur gagne et puis on comptera les points à la fin? Est-ce qu'il y avait des stratégies en fonction des contextes, en fonction de ce qui pouvait se passer?
Non, bah, que le meilleur gagne, quoi.
Ouais, c'était
Lui qui
vraiment ça.
va plus loin et lui qui.
Ouais.
Il n'y a pas de. Ah, lui, si toi tu passes. Non, non. Chacun s'est fait. Donne de ton mieux et lui qui va plus loin, il se le mérite.
D'accord. Donc par exemple la série, j'ai en tête la série de Kaoli et Johan, où Kaoli avec sa prio,
sa prio bloque en fait, je sais plus qui contre qui ils sont. Mais en gros, il aide plus ou moins Johan à passer le tour. Ça, c'est pas quelque chose qui était prémédité, qui était anticipé.
Non, oui, mais c'est normal. C'est
naturel. Ouais, voilà, c'était.
Par exemple, moi, j'ai un 8, un 6. Je suis sûr de passer ma série et l'autre, Johan Dury, il est deuxième avec 2-6 et l'autre, il en a besoin d'un. Il a besoin d'un 6. Ah, tu vas le bloquer, tu vas aider ton pote, tu vois. C'était en équipe. Tu vas essayer de faire. Voilà, tu essayes de faire plus de points pour que. Qu'on puisse se qualifier au jeu.
Par rapport à Jérémy Flores, donc on a, parmi les membres du staff, c'est peut-être celui qui a été le plus mis en avant médiatiquement, ce qui est assez logique vu les bagages du monsieur, qu'on peut rappeler au passage. Hein, c'est un Tupo, deux pipes, l'Impro France, champion du monde ISA. Ça pèse un peu.
ouais, normal.
Et du coup, voilà, comment ça s'est passé de travailler avec lui? J'avais l'impression qu'il c'était un peu, si je faisais une analogie avec un autre sport qui est le tennis, j'ai l'impression que c'était le capitaine de Coupe Davis, quoi. Il donnait un peu cette énergie, cet entrain. Du coup, voilà, je voulais savoir comment toi t'as reçu ça. Et est-ce que t'as pu en tirer surtout, et peut-être des choses qui vont te servir maintenant pour la suite?
Bah, Jérémy, bien sûr, c'était un peu le capitaine de l'équipe. En tout cas, tu vois, comme j'avais dit avant, Jérémy, il avait tout vraiment, il était là pour nous, tu vois, il nous a supporté du début à la fin, c'est pas par hasard qu'il a gagné tous ses compètes, tu vois. Il a beaucoup d'expérience et il essayait de nous la donner à nous, tu vois. Et c'était vraiment incroyable. Tu vois, on a beaucoup de chance, t'imagines, d'être coaché par Jérémy Flores. C'est incroyable.
Ouais, c'est légende du surf français, clairement.
La légende du surf. Voilà, c'est lui qui nous a ouvert les portes aussi, tu vois, à croire en nous aussi, parce que bien sûr qu'il y a des très bons surfeurs aussi, mais Jérémy, c'est vraiment lui qui a été le meilleur dans le CT.
15 années consécutives sur le CT, ça commence à peser.
Et Jérémy, la vie, tu vois, c'est pas facile, tu vois, des fois c'est pas facile, tu vas dans une ligue où est-ce que c'est que des Australiens et que des Américains. En ce temps-là, il y avait quelques Brésiliens, bien sûr. Mais voilà, c'était pas facile. Et des fois, faut se fighter. Lui, il a fighté. Il a pas lâché. Il a dit, ah non, c'est pas grave, bah, je vais me fighter, moi. S'il faut que je dise quelque chose, je vais le dire. Et je trouve que ça, c'est vraiment à cœur. Parce que beaucoup de gens, ils ont peur de s'exprimer. Ils disent, ah, qu'est-ce qui se passe si lui va me dire ça? Non. Des fois, faut dire les choses pour changer. Tu vois? Si tu laisses trop les choses passer comme ça, tu changes rien. Des fois, faut dire les choses pour que les gens se rendent compte. Et c'est quelque chose que Jérémy a fait pendant sa carrière aussi, c'est que pas qu'il a gagné les compètes les plus légendaires, mais il a aussi, tu vois, il était là, il n'avait pas peur de s'exprimer, je trouve. Avoir la liberté de s'exprimer, c'est quelque chose d'incroyable. Et pas avoir peur, c'est vraiment quelque chose de solide, pas.
Il s'est imposé, quoi.
Attitude, quoi.
Ouais. Bon, et du coup, si on revenait sur cette compétition, donc une compétition particulière qui est assez longue comparée à ce que vous pouvez faire d'habitude. Donc il y a sept tours principaux pour accéder à la finale. Et toi, dans cette compète, on te sent bien, quoi. Tu surfes puissant, tu surfes aérien, t'es là, tu lâches des gros scores. Je crois qu'il y a un tour, tu sors le meilleur score du tour. T'es là, quoi. T'es prêt physiquement et t'es prêt dans ton surf, quoi. C'est comme ça que tu te sentais. C'est l'impression que tu donnais.
Je m'exprime avec confiance, tu vois. Je sais que quand je rentre à l'eau, j'ai pas de doute en moi. J'ai pas de doute en moi. Je sais que avant ça, j'ai travaillé extrêmement dur. J'ai fait toute la préparation possible. C'est pas le moment pour me douter, tu vois, quand je suis à l'eau. Alors, bien sûr, des fois, Le truc, c'est que je rentrais à Londres en confiance et prêt pour m'exprimer. J'étais prêt physiquement, j'étais prêt mentalement. Et voilà, j'ai fait une belle début de compète. Et franchement, c'était cool.
T'as fait une belle compète globale. J'allais dire, tu perds un peu sur des coups du sort. En tout cas, tu perds sur des gros scores.
Ouais.
Tu perds pas en faisant un total de 6,
Non,
quoi.
non, bien sûr. Non, non, bah ouais.
Tu perds le tour principal. Donc, on va rappeler face à Medina, qui est intouchable, vraiment très très gros niveau, et Johan Duru qui fait 3 dernières minutes. De l'espace,
Ouais.
quoi. C'est-à-dire, il a quasiment pas surfé pendant toute la série, et il lâche 3 minutes où il sort 2 gros scores et il te passe de justesse. Comme tu disais tout à l'heure, des fois c'est toi, des fois c'est quelqu'un d'autre. Tu l'as vécu comme ça, ou t'arrives à relativiser le truc,
Ouais, carrément, tu vois.
ou là sur le coup t'es bon, même si c'est un pote.
Bah, pour te dire la vérité, je trouve que Johan Duru, il mérite énormément. C'est quelqu'un qui mérite. Et franchement, bah, c'est une des presque ces dernières années, tu vois. Et c'est cool pour lui. Bien sûr, j'aurais bien aimé être dans les Jeux Olympiques à Tchopo et faire partie de l'équipe de France pour aller représenter la France au Paris 2024. Mais c'est comme ça. C'était à moi d'apprendre. C'était à moi d'apprendre de ce qui s'est passé, tu vois. Je suis pas le type à regarder dans mon passé et parce que si je regarde trop dans mon passé, je vais y rester. Je suis pas le type à rester
D'accord.
là-bas, tu vois. Bien sûr, je vais aller en arrière, je vais apprendre, je vais admirer ce que j'ai fait. Mais non, je regarde dans le futur et maintenant je vois ce que je veux faire. Et pour moi, là maintenant, c'est me qualifier dans le CT et ça a toujours été mon but. Bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est très important pour moi. Puis moi, c'est le CT. C'est le CT et aller le plus loin possible. Pour moi, c'est ça. Alors, j'essaie pas trop de regarder dans le passé là maintenant parce que voilà, c'est comme ça. Maintenant, en avant, avec la tête haute et tout donner.
Ça marche. Moi, si tu le permets quand même, on va revenir encore un peu dans le passé, et après on rebasculera sur les objectifs. Mais du coup, à ce moment-là de la compétition, t'es pas complètement éliminé pour les JO. Il y a encore le classement par équipe qui peut faire que ça, qu'on libère qu'on ait une place en plus si jamais on gagne. Et il y a qu'une configuration possible pour que la France ne gagne pas, parce qu'on en a quand même. Johan Duru et Coly Vast en finale. Et donc toi, tu es spectateur de tout ça. Comment tu vis la finale? Comment tu vis le truc? T'es plein d'espoir. Est-ce que tu préfères être défaitiste pour pas être plus déçu après? Comment tu vis ce moment où en fait t'as plus le jeu est plus entre tes mains et c'est aux copains et au destin de décider pour toi?
Exactement, comme t'as dit, t'as tout dit là, c'était le destin.
Ok.
C'était le destin. C'est comme ça. Qu'est-ce que je
Ouais.
peux y faire? C'était pas à moi, c'était à Dieu. C'était à Dieu de voir ce qu'il voulait faire avec. Si c'était à moi, incroyable. Mais c'est pas grave aussi, tu vois. Gabriel Medina, il a eu sa place. Et je trouve que c'est quelqu'un qui mérite aussi. Et peut-être c'était le destin.
Oui, bien
C'est le
sûr.
destin, c'est comme ça les choses. Je peux rien y faire. Je peux ou regarder en arrière et pleurer, ou juste dire, ok, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la vie. Je peux regarder en arrière, pleurer ce que je veux, mais ça n'a rien changé. Alors je me réveille aujourd'hui et je suis content. Je vais aller surfer, je vais surfer avec mes potes, je m'entraîne. J'ai encore une chance pour réussir mon rêve. Alors, je vais pas y pleurer, je vais pas me déprimer pour ça. Je
Ça
suis
marche.
content pour Johan, je suis content pour Medina, je suis content, tout le monde mérite en vrai. S'ils auraient été des gens qui méritaient pas, ok, mais là, c'est des gens qui méritent.
C'est vrai que Johan, pour les JO de Tokyo, il avait été champion du monde et puis il y a eu une espèce de micmac
Oui, voilà.
qui l'avait empêché de faire les JO pour une histoire de maladie, il me semble, quelque chose comme ça. Enfin bref, il y avait eu tout un truc autour de lui et du coup, beaucoup de déceptions.
Voilà.
C'est vrai que là, pour sa dernière année. Mais bon, ça aurait été cool la troisième place.
Ah non, c'est sûr.
Mais et du coup, moi, il y a une image qui m'a marqué pendant ces mondiaux, c'est au moment où toi t'es éliminé des repêchages. Ça veut dire que Johan est automatiquement qualifié pour les JO. Et il doit y avoir, je crois que c'est la Fédé qui va l'interviewer. Et en fait, lui est pas. On voit que c'est pas comme ça qu'il voulait le gagner. Ouais. Et c'était hyper touchant en fait, parce que les premiers mots qu'il a, ils sont pour toi. On lui pose une question sur la qualif pour les JO, et le premier truc qu'il doit dire, c'est bah non, en fait, j'ai de la peine pour Marco que ça se passe comme ça. Et vous en avez rediscuté après, ou vous avez échangé un peu là-dessus?
Ouais, bah un petit peu, tu vois. Il était là, putain, fait chier, pardon et tout. Pas pardon, mais comme tu vois, bien sûr, il était vert pour moi. Mais ses émotions, c'est comme bizarre, tu vois, parce que lui, comme il a gagné, ouais, il a vu sa place. Et moi, j'ai pas eu, tu vois. Mais bon, on a échangé, bien sûr. Et comme je te dis, Johan, c'est un mec qui a un bon cœur. Alors, c'est cool. On a parlé, on a discuté. Et il m'a beaucoup motivé aussi pour le futur. Alors, c'est cool. Ouais. Johan, il a un bon état d'esprit. Alors, c'était des émotions de partout.
Ouais, ça devait être fou. Et puis en plus, la dernière journée, vous êtes donc Medina gagne, il gagne le classement par équipe, et vous finissez quand même vice-champion du monde des nations. Ouais. Donc vous finissez sur le podium par équipe avec la médaille. Donc c'est pareil, toi, au niveau des émotions, c'est tsunami dans un sens, dans l'autre. Tu l'as savouré cette médaille quand même, ou c'était un peu amer.
C'était un peu amer quand même, je vais pas.
Ah, c'est difficile, je veux. Ah, tu as le droit. Non, tu as le droit.
Mais bon, on a bu une bonne bière, bien fraîche, sous le soleil du Puerto Rico. On a fait la teuf, on a fait la fête. On a profité de ce que t'es positif, c'est que il a qualifié Johan. On a fait la fête, on a dansé, c'était cool. J'ai pas trop le temps pour. Regarder en arrière et pleurer, alors
t'en as profité.
J'en ai profité.
Très bon état d'esprit, c'est cool. Et du coup, donc là, la compète est terminée. Et donc, alors nous, on l'a appris pendant les championnats du monde ISA, mais tu as eu une wild card pour aller sur la troisième étape du CT, qui est au Portugal, à Peniche. Quand est-ce que toi tu étais au courant de ça, et comment ça se passe en fait tout ce mécanisme avec la WSL?
En fait, le mec qui est mieux ranké dans les challengers européens aura la wildcard.
D'accord,
ça marche comme ça, quoi. Par exemple, Jackson Bunch à Hawaii, il a eu la wildcard parce qu'il était le ranké le plus haut, et pareil pour les gens qui vont être. En Australie, le mec qui est ranké le plus haut, il va avoir la wildcard. Alors, ça marche comme ça.
D'accord. Du coup, tu savais, dès la fin des Challengers, tu savais que t'allais avoir une épreuve sur le CT l'année suivante.
J'ai commencé à y penser quand j'étais à Hawaii, parce que mon pote Jackson, il a dit, je vais avoir la wildcard, je crois, parce que j'ai le ranking le plus haut, je suis le ranké le plus haut dans les Challengers, et j'ai dit, moi aussi, alors. J'étais content, et après j'ai envoyé un message au mec, hey, c'est vrai ou pas? Il m'a dit, je peux pas t'assurer, mais ouais, presque sûr. Alors j'ai eu le temps, quand j'ai eu la nouvelle qu'ils m'ont confirmé, il y a Puerto Rico, vraiment, moi j'étais sûr, quoi. Alors j'étais hyper content, mais dans ma tête je savais.
Ok, d'accord. Donc la WSL, ils n'ont pas été cool. Toi, tu es à Porto Rico le dimanche après-midi. Vous gagnez, vous êtes sur le podium, tout va bien, il fait beau, il fait chaud. Et le mercredi matin, tu es dans l'eau au Portugal, combinaison intégrale. Ouais. comment s'est passée cette transition? À partir de quand tu es arrivé au Portugal? Et surtout, comment tu gères?
Franchement, c'était assez dur. Parce que déjà, j'arrive la nuit super tard. Je me couche assez tard. J'ai mes planches qui n'étaient pas prêtes encore. Bon, après, il y a des excuses. Hein. mais j'étais fatigué, j'avais le décalage, l'eau froide, horrible. C'est horrible. Le premier canard, ma tête était. Il savait pas où elle était. Mais franchement, voilà, la première série, j'ai voulu trop aller dans l'excès, j'ai trop voulu faire des gros airs. Mon corps, mentalement, j'étais pas prêt pour y replaquer vraiment. Et voilà, j'ai perdu à la dernière minute, mais même si je crois pas que j'aurais dû perdre, si vous pouvez aller regarder la série, même si c'est une série qui a pas eu beaucoup de gros scores, j'aurais jamais dû perdre la série, même si je devrais pas le dire moi-même, mais je sais que.
Tu penses qu'il y a eu, il y a eu des scores un peu
Oui, non,
sympathiques peut-être
carrément.
pour certains.
Carrément, oui.
Ça peut arriver,
Non,
hein. Il y a certains.
ça arrive quand t'es le champion du monde, hein. T'as plus de chances de passer.
Ouais, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus parce que du coup, toi, tu as invitation sur le CT et boum, tu prends John Florence, le mec a le lycra jaune de leader du CT sur le dos. Qu'est-ce que ça fait comme est-ce que ça booste ton côté challenger? Est-ce que tu as un petit côté parce que je sais pas, il est champion du monde en 2016, 2017, John. Toi, tu as 16-17 ans, est-ce qu'il y a un petit côté un peu genre un peu fan ou un peu genre idole ou vraiment tu fais abstraction de tout ça et tu vas pour
Ouais, John, meilleur surfeur du monde. Je veux pas commencer à comparer, hein. Mais John, meilleur surfeur du monde. Et c'est incroyable, tu vois, tu vas surfer. Tu imagines le petit jeune Marco Mignon quand il était là-bas dans le village pêcheur à Sayulita. Et tout petit, tu vois, t'imagines où j'étais, tu vois, en train de surfer contre John dans une étape la plus grande qu'il y a. J'ai regardé et j'étais là, waouh, quand même, je suis arrivé loin, tu vois. Je suis arrivé loin. Je t'ai très reconnaissant et c'est cool, tu vois. J'ai des sensations de quand j'étais petit, je rêvais ça. Mais non, par contre, je vais les battre la prochaine fois parce que John, ça peut être John ou n'importe qui, je veux le battre. Il n'y a pas et c'est bon. C'est bon.
Surtout que là, je pense que lui aussi, il avait le décalage horaire parce qu'il a été assez loin au niveau des
Ouais.
visages. Je pense qu'il a dû arriver tard aussi un peu au Portugal.
Bah, il est arrivé quand même
Du
2-3
coup, il
jours avant
était.
moi parce qu'il a perdu direct et
D'accord.
il est parti. Mais bon.
Mais il a pas fait, il a pas fait une série incroyable quoi.
Non.
Il était prenable à ce moment-là. Et sur la fin, t'as la prio. Et à un moment donné, on sent, tu le cherches. Il est à 10 mètres de toi. Tu courses un peu. Et
Ouais.
toi, comment, dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là,
C'est bizarre parce
tu.
que tu vois, quand t'as 2-3, t'as pas trop envie d'aller bloquer le mec, tu vois, ça sert à rien. Mais bon, quand il reste 10 secondes, quand il reste 30 secondes, 1 minute, tu vas pas non plus le laisser prendre la bombe là-bas toute seule. Quand j'ai la priorité, alors c'est
Ouais.
stratégique.
Ah, puis c'est le jeu des priorités. À un
Voilà,
moment donné,
faut
faut.
utiliser ta stratégie.
Tout à fait. Mais là, tu prends une vague que je crois que tu tentes un air que tu replaques pas. Et lui, derrière, il reste 10 secondes et il prend la vague et il fait
Ouais, voilà.
le score le score qu'il faut, quoi.
Ouais, heureusement il avait la lycra jaune parce que.
Mais du coup après tu vas en elimination round et là il se passe un peu pareil, c'est le Sud-Africain
Ouais, dernière minute.
qui te passe devant
En ce moment, les
à
dernières minutes,
l'arrache.
ça enchaîne.
C'est justement cet enchaînement de dernières minutes, ça te fait toi réfléchir sur des points stratégiques que tu as envie de travailler. Est-ce que tu as revu ces séries et tu t'es dit tiens, j'aurais peut-être dû faire ça différemment? J'aurais peut-être dû ne pas prendre cette vague ou prendre
Oui.
celle-là. Est-ce que ça te fait réfléchir sur les vagues que tu dois prendre et celles que tu ne dois pas prendre et un peu la stratégie à mettre en place en série? T'as retravaillé ça un peu depuis?
Oui, après, tu travailles les erreurs que tu fais, hein, mais tu vois, il y a le facteur aussi chance que, par exemple, des fois c'est comme ça va pas de ton côté, tu vois, on joue avec la mer et
Bah
la
oui.
mer, c'est pas. Tu peux rien y faire, tu vois. Quand je surfais contre John, j'ai été pour faire des gros airs parce que je surfe contre John, tu vois. J'allais pas faire des 3 points.
Ouais, puis il n'y avait pas les vagues pour faire beaucoup plus. Hein. Ta série particulièrement, c'était après, pas en termes de vagues, c'était pas la folie.
Contre Mathieu et Kano Igarashi, j'ai eu la première vague. J'aurais pu trouver un meilleur backup, mais bon, j'ai pas vraiment trouvé de vague. Et à la fin, dernière minute, le mec, il a chopé la bombe. Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux?
Ouais.
Mais ouais. Mais ouais, tu regardes en arrière, t'apprends et tu t'essayes de ne pas refaire les mêmes erreurs.
Ouais. Et du coup, t'as pu appréhender un peu la machine du CT. Ça doit être une grosse organisation, une grosse machine. Alors, t'avais déjà fait un CT,
oui.
Mais il y a quelques années maintenant sur le Pro France. Et du coup, là, est-ce que tu y allais genre en mode repérage, tu vois, genre c'est là que je vais être bientôt. Tu vois comment ça fonctionne vraiment toute la machinerie qu'il y a autour.
Plus, c'est ouais exactement l'état d'esprit que les gars rappelez cette tête vous allez le voir bientôt. Vous allez le voir.
Ça c'est un bon état d'esprit ça.
La seule chose que je bien sûr je repérais mon numéro derrière mon dos. Je repérais les gens, je repérais tout. Je me voyais, quoi. Je m'y vois.
Ouais.
C'est question de temps. C'est question de...
D'accord. Et justement, en parlant de ça, donc tu as fini, 14e des Challengers Series l'année dernière. Donc, ce qui te qualifie automatiquement pour le Challenger Series de cette année.
Ouais.
Vu que tu étais dans le top 20. Du coup, là, on a bien compris ton discours. Tout pour le CT.
Tout pour le CT.
Tout pour le CT. Tout. Donc là, il y a six épreuves sur les challengers. Là, c'est tout pour y aller.
Tout pour y aller. Il n'y a qu'un but là maintenant dans mon tête. Je me réveille le matin, je pense. C'était. Je vais me coucher. C'était.
Alors on va rappeler un peu ce que c'est les challengers et challenger series. Donc t'as les meilleurs de chacune des régions du qualifying series. Et c'est la fosse au lion le truc. C'est 80 surfeurs. Et c'est les 10 premiers qui vont pouvoir accéder au CT et à l'élite mondiale. Donc c'est vraiment la fosse au lion et chaque série tu tombes contre un top surfeur, chaque série presque c'est une finale presque.
Bah c'est comme ça, c'est des bons surfeurs, on est tous des bons surfeurs, mais on verra lui qui a plus la dalle, tu vois, à la fin de la journée lui qui veut vraiment, qui a confiance. Et voilà, on est lui qui a plus envie, quoi. Lui qui a vraiment envie, il va y arriver, sans doute. Et moi, j'ai vraiment envie.
Et là, j'ai l'impression qu'au niveau de l'envie, on est bien là.
Là, ils ont intérêt à avoir l'envie que j'ai quand je rentre dans la série, parce que moi, l'envie, je vais l'avoir. Et voilà, je suis prêt en tout cas. Le CT, je suis prêt. J'ai tapé à la porte l'année dernière. Cette année, je vais ouvrir la porte et rentrer.
Ça c'est un bon état d'esprit ça. Et du coup, est-ce que donc là cette année objectif c'était à fond. Et si on revient sur les championnats du monde ISA, est-ce que à terme c'est un objectif? On sait que ça n'a pas toujours été prisé des surfeurs du CT, les championnats du monde ISA. Ça a repris un peu de valeur avec tout ce qui est qualification pour les JO parce que maintenant les surfeurs du CT s'ils veulent être JO sont obligés de participer. Est-ce que toi, à terme, ça peut devenir un objectif? On met le...
De gagner
De gagner, ouais, de gagner le championnat du monde d'ISA. Est-ce que ça peut devenir un objectif ou ça sera un plus par rapport à une forme du moment ou...
Ouais, tu vois, pour moi, bien sûr, c'est un objectif, tu vois. Mais là maintenant, non. Pas là maintenant.
Ouais, là,
maintenant, je suis pas dans les Jeux Olympiques, j'y pense pas trop là maintenant. Mais par contre, pour Los Angeles 2028...
C'était ma question d'après.
Voilà. On se fera une nouvelle discussion.
Ça marche. Donc, donc clairement, JO 2028, ça rentrera dans la catégorie de tes objectifs le moment
venu. Non, c'est dans le mur.
c'est déjà accroché
mais j'y pense pas parce que c'est dans 4 ans et le temps on va savoir tout avec le temps, tu vois, parce que voilà, si je suis Le temps, ça va se faire, ça va s'aligner s'il faut, ça s'aligne, ça va se passer, qu'est-ce que doit se passer.
Ça marche. Eh ben écoute, Marco, sur ces très beaux objectifs qu'on va te souhaiter de réussir, on va terminer là-dessus. Franchement, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. C'était top, c'était une super super conversation. On a appris plein de choses sur toi. On va te souhaiter le meilleur pour la suite. Et on a bien compris, le meilleur pour la suite, c'est une qualification sur le CT.
Oui.
Donc, on va suivre ça de très très près. Et vraiment, on te souhaite le meilleur.
Merci beaucoup, Fabien. Et on se tient au jus. Et allez, on va tout donner là.
Allez, Marco. Allez. Salut.
Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce premier épisode vous a plu et qu'il en amènera d'autres. Un merci particulier à Dimou, Fred et Lisandre pour l'aide et un merci spécial pour Bruno, mon acolyte Pardon My Surf. À bientôt. Tchou !